ça m'a bien plu.
Genre, elle se réveille, elle est dans ses rêves.
C'est une petite fille qui s'appelle Alice qui suit un lapin dans un truc où il y a un trou et après il y a un gros bazar.
Je sais pas, elle a bu quelque chose, une potion, et puis après...
Il y a une reine qui a plein de fleurs et de cartes, là. Et il y a... Ah oui, le chat, là.
Et après, elle se retrouve dans le pays des merveilles.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que dire à un enfant qui s'ennuie? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait répondre, c'est une chouette nouvelle. Quand tu t'embêtes, mon enfant, tu muscles ton imagination et ta créativité. L'ennui est très sain pour ton cerveau. Bon, il est probable que cette réponse ne suscite pas un enthousiasme débridé. Alors essayons autre chose. Ah, tu t'embêtes? Eh bien, tu pourrais jouer au croquet avec des flamants roses en guise de maillets et des hérissons en guise de boules, sans faire mal aux flamants ni aux hérissons, s'il te plaît. Si ça te semble bizarre, commence peut-être par suivre le lapin blanc. Car c'est bien ça, le point de départ d'Alice au pays des merveilles. La petite fille s'ennuie et s'ouvre alors un pays merveilleux. Alice est donc l'héroïne de Barbatruc cette semaine. C'est une émission pour les enfants et pour toutes celles et tous ceux qui l'ont été un jour. On va essayer de comprendre avec mes invités ce que grandir veut dire. Se demander aussi ce que cette histoire dit de la force du langage, de la cruauté du monde, de la magie des rêves. Nous allons écouter des extraits du roman de Lewis Carroll. Et les ados et les enfants d'aujourd'hui, entendre ce qu'ils en pensent. La chenille qui fume, vous le constaterez, a marqué les esprits. Nous retrouvons aussi en fin d'émission l'actualité du livre pour enfants avec Denis Chessou, L'as-tu lu, mon petit loup? Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
J'accueille avec plaisir mes deux invités, une écrivaine et un metteur en scène de théâtre. Bonjour Geneviève Brisac.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue Emmanuel de Marcy-Mota, bonjour.
Bonjour.
Alors vous savez comment on choisit les invités dans Barbatruc? En fonction du prénom de leurs enfants. Vous avez tous les deux, je crois, une fille qui s'appelle Alice.
C'est vrai.
C'est juste.
C'est juste. Hommage, j'imagine, j'espère, au personnage de Lewis Carroll, Emmanuel de Marcy-Mota.
À beaucoup de choses. En tout cas, à tout ce que éveille en chacun de nous, je pense, le personnage même de Lewis Carroll. Et puis, pour vous dire aussi la réalité, disons, la maman de Alice, donc de ma fille, est une comédienne aussi à moitié anglaise. Donc c'est un pronom qui fonctionne aussi dans trois langues, en anglais, en français et en portugais. Donc il y a cette circulation. Et puis d'autres éveils dont on parlera autour d'Alice.
Geneviève Brisac, Alice Buteau, votre fille est comédienne. Et vous avez d'ailleurs coécrit avec elle une pièce de théâtre, La Mère Noël, à l'école des loisirs. Vous êtes l'autrice de nombreux romans, hein, pour adultes et pour enfants. Est-ce que c'est le même travail d'écrire pour les grandes personnes et pour les petits?
Oui, d'une certaine manière, c'est le même travail, puisqu'il s'agit de plonger, et puis d'espérer que l'inspiration vienne. Et puis, moi, je travaille quand même beaucoup sur, comment dire, des histoires de préférence où l'humour joue un grand rôle. Et j'ai toujours pensé que un des grands liens entre les adultes et les enfants, c'est le rire partagé, enfin l'humour, tout simplement l'humour. Mais les vrais livres pour enfants que j'aime ne sont pas vraiment pour enfants, et les vrais livres pour adultes, probablement pareil.
Pas vraiment pour adultes. Emmanuel de Marcy-Mota, vous êtes le directeur du théâtre de la ville à Paris. Comment va votre théâtre?
Alors, je vous dirais deux choses. D'abord, il va très bien parce que le désir est présent. D'abord, le désir de jouer chez les artistes, mais aussi le désir puissant du public. Le désir de quoi, finalement? Le désir de l'imagination, et de se rappeler que le mot théâtre veut dire en grec le lieu d'où l'on regarde. Et il faut le rappeler pourquoi le théâtre est fait pour tous. Et ça n'est pas seulement une question de politique culturelle. C'est lié à un désir ancestral des êtres, presque quelque chose qui est au fond de nous tous, et d'ailleurs souvent dans les contes et des légendes, c'est-à-dire la capacité à raconter des histoires à d'autres êtres vivants. Et il en va de notre responsabilité au moment d'une crise sanitaire. D'avoir la qualité du récit, la clarté aussi, pour pouvoir se réunir et ensemble écouter une histoire sur laquelle on pourra alors débattre après une réunion dans un théâtre public.
Vous parlez de clarté du récit. Je ne sais pas si ce récit-là est très clair. Venons-en, s'il vous plaît, à Alice au Pays des Merveilles, personnage créé par Lewis Carroll il y a plus d'un siècle et demi. C'est la petite fille la plus célèbre de la littérature jeunesse, adaptée en dessin animé par Walt Disney, en film par Tim Burton. Sauriez-vous dire dans quel état vous met la plongée dans ce roman, Geneviève Brisac? Vous l'avez lu combien de fois?
200 ?
J'en ai aucune idée, je l'ai lu. Non, je me souviens, comme tous les livres précieux, je me souviens très très bien d'émotions, des premières lectures, et enfin de la première peut-être même. Et quand je retrouve un exemplaire d'Alice au Pays des Merveilles, que ce soit un album ou un livre de poche, je suis à la recherche des, enfin, je veux dire, des émotions, des sensations.
Vous prenez des nouvelles de vous-même finalement en relisant ce livre ?
Effectivement, on se rejoint soi-même et c'est totalement merveilleux. Quoi. C'est un livre. Surtout, je crois que comme vous savez, comme les gens intelligents vous rendent plus intelligent quand ils sont assez généreux, les livres très intelligents vous rendent plus intelligent quand ils sont drôles.
C'est un mot qu'on n'aime pas trop en ce moment, mais c'est contagieux. C'est contagieux. Non, contagieux. L'intelligence, si on est bien, toujours. Emmanuel de Marcy-Motta, vous avez mis en scène deux spectacles autour de ce personnage emblématique sur une adaptation de Fabrice Melchiot. Alice traverse le miroir et Alice et autres merveilles. Pourquoi elle ? Pourquoi Alice ?
Vous avez cité effectivement des influences, enfin des réalisations cinématographiques, mais je vous rappelle qu'un film comme Inception est basé, le scénario, sur Alice. Que le dernier film de Christopher Nolan sur la question de l'inversion à travers les sons et les mots est basé sur Alice. Bon, je pourrais en citer plein des films. Et c'est-à-dire des grands scénarios, d'ailleurs, ont traversé et ont croisé toutes ces questions. On peut regarder aussi chez les contemporains allemands du 19e, dans la littérature, il y a énormément de choses. Donc, pour revenir à ce qui me concerne moi, donc, si vous voulez, dans le travail avec Fabrice Melchior, c'est-à-dire on va essayer de penser à des personnages qui vont se rencontrer, qui vont se croiser. Et j'ai ce rêve de faire cette grande fable des personnages de l'humanité, si vous voulez, de Antigone à Alice qui se rencontrent et qui discutent sur nous-mêmes, sur nous les êtres humains, parce que eux sont éternels. Donc on est parti de cette idée, et c'est comme ça qu'on a fait le premier spectacle, Alice et autres merveilles, où elle rencontre le petit chaperon rouge et d'autres personnages.
Zazie dans le métro aussi, de Queneau.
Alors ça c'est dans la deuxième version, Zazie, deuxième. Etc. Et le personnage de Dorothy, qui est une descendante de Alice. Et Zazie dans le métro, de Raymond Queneau, c'est Alice de Queneau. Queneau le dit dans ses récits, c'est l'imaginaire de Alice qui l'envahit, qui le traverse pour créer ce nouveau personnage féminin. Et tous, ce sont des personnages féminins.
Écoutons un premier extrait du roman de Lewis Carroll. Vous sentez cette odeur de poivre ?
Barbatruc, Dorothée Barbaz, on voit un bon.
La porte donnait sur une grande cuisine qui était pleine de fumée d'un bout à l'autre. La duchesse était assise sur un tabouret à trois pieds, au milieu de la cuisine, et dorlotait un bébé. La cuisinière, penchée sur le feu, brassait quelque chose dans un grand chaudron qui paraissait rempli de soupe. « Dans la soupe, » se dit Alice, tout empêchée par les éternuements. Il y en avait certainement trop dans l'air. La duchesse elle-même éternuait de temps en temps. Et quant au bébé, il éternuait et hurlait alternativement, sans aucune interruption. Les deux seules créatures qui n'éternuassent pas étaient la cuisinière et un gros chat, assis sur l'âtre, et dont la bouche grimaçante était fendue d'une oreille à l'autre. « Pourriez-vous m'apprendre ?» dit Alice un peu timidement, car elle ne savait pas s'il était bien convenable qu'elle parlât la première. « Pourquoi votre chat grimace ainsi ?»« C'est un grimaçon, un chat du Cheshire, » dit la duchesse. « Voilà pourquoi. »« Porc !» Elle prononça ce dernier mot si fort et si subitement qu'Alice en frémit. Mais elle comprit bientôt que cela s'adressait au bébé et non pas à elle. Elle reprit donc courage et continua. « J'ignorais qu'il y eût des chats de cette espèce. Au fait, j'ignorais qu'un chat pût grimacer. » « Ils le peuvent tous, » dit la duchesse, « et la plupart le font. »« Je n'en connais pas un qui grimace, » dit Alice poliment, bien contente d'être entrée en conversation. « Le fait est que vous ne savez pas grand-chose, » dit la duchesse. Le ton sur lequel fut faite cette observation ne plut pas du tout à Alice, et elle pensa qu'il serait bon de changer la conversation. Tandis qu'elle cherchait un autre sujet, la cuisinière retira de dessus le feu le chaudron plein de soupe et se mit aussitôt à jeter tout ce qui lui tomba sous la main à la duchesse et au bébé. La pelle et les pincettes d'abord, à leur suite vint une pluie de casseroles, d'assiettes et de plats. La duchesse n'y faisait pas la moindre attention, même quand elle en était atteinte. Et l'enfant hurlait déjà si fort auparavant qu'il était impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. « Je vous en prie, prenez garde à ce que vous faites !» criait Alice, sautant çà et là et en proie à la terreur. « Oh, son cher petit nez !» Une casserole d'une grandeur peu ordinaire venait de voler tout près du bébé et avait failli lui emporter le nez. Si chacun s'occupait de ses affaires, dit la duchesse avec un grognement rauque, le monde n'en irait que mieux. Ce qui ne serait guère avantageux, dit Alice, enchantée qu'il se présentât une occasion de montrer un peu de son savoir. Songez à ce que deviendraient le jour et la nuit. Vous voyez bien, la Terre met 24 heures à faire sa révolution. Ah, vous parlez de faire des révolutions, dit la duchesse. Qu'on lui coupe la tête! Alice jeta un regard inquiet sur la cuisinière pour voir si elle allait obéir. Mais la cuisinière était tout occupée à brasser la soupe et paraissait ne pas écouter. Alice continua donc. 24 heures, je crois, ou bien 12, je pense. Oh, laissez-moi la paix, dit la duchesse. Je n'ai jamais pu souffrir les chiffres.
C'est Louise Bauduret qui nous fait la lecture, comédienne de la compagnie El Duende, théâtre d'Ivry-sur-Seine. Alors, premier constat, Geneviève Brisac, Alice est un peu timide. Elle se demande si telle ou telle question sont convenables. Est-ce une petite fille modèle ?
Alors, je ne pense pas qu'elle est... D'abord, c'est une petite fille de son époque, hein, même si elle est en même temps de son époque et en même temps incroyablement moderne. Alors, elle se demande si les règles de politesse qu'on lui a apprises en tant qu'enfant s'appliquent au monde dans lequel elle a été projetée. Et le fait est qu'elle ne s'applique pas du tout. Donc, elle est sans arrêt confrontée à un monde où ses règles de langage et ses règles habituelles de politesse... Elle accorde beaucoup d'importance à la politesse et on ne peut qu'en être charmé. Que d'abord, c'est très amusant, la politesse. Je trouve qu'elle démontre très bien, et Carole montre parfaitement à quel point la politesse, c'est rigolo. C'est-à-dire, puisqu'il faut tester ce qui est poli pour l'autre, mais qui pour soi-même ne l'est pas nécessairement. Et par ailleurs, elle est confrontée à des personnages qui n'en ont absolument rien à fiche de la politesse.
Aucun savoir-vivre.
Très... La duchesse est même effrayante.
Elle est terrible.
Elle a une voix géniale. La comédienne qui l'interprète a une voix qui
lui
a donné la chair de poule.
Oui, oui. Elle aime montrer son savoir, Alice Emmanuelle de Marcimota. Est-ce qu'elle ne serait pas un peu arrogante ?
On pourrait le dire, mais disons dans le mot arrogance, on a toujours cette chose un peu négative. Mais en tout cas, là, moi je l'aime bien parce qu'elle cherche... De mon point de vue, il y a aussi l'idée d'une émancipation. Elle a la capacité de cette jeune fille qui est aussi de renvoyer dans les cordes, si j'ose dire, un personnage comme la chenille, qui est un personnage assez désagréable. Quand
et
elle
la duchesse,
rencontre,
à l'instant.
La duchesse. Donc, elle rencontre des personnages qui sont relativement désagréables, un peu comme les adultes avec les enfants, finalement, fondamentalement.
Pas un peu. Tout à fait, comme les adultes
vous êtes plus
avec
ferme
les
que
enfants.
Moi.
Beaucoup plus, oui.
Écoutez, moi, j'étais un enfant qui a aimé relativement bien les adultes. C'est-à-dire que je trouve qu'on devrait s'interroger tous sur est-ce qu'on a aimé les adultes réellement quand on était enfant. Quand vous aviez 6 ans, est-ce que vous admiriez ? Est-ce que vous aviez envie d'être comme eux ? Ou est-ce que vous les trouviez
emmerdants ?
Moi,
je crois que je n'en voyais pas du tout, en fait.
Ils étaient inexistants, pour vous, par exemple. Voilà. Moi, c'est une question que j'aime à poser aux acteurs quand je travaille, c'est-à-dire qu'on prenne le temps chacun de réfléchir sur notre souvenir et l'enfant qui est en nous, quel souvenir il a de l'adulte.
On pourrait aussi demander aux adultes dans quelle mesure ils se souviennent des enfants qu'ils ont fréquentés, parce que je pense que cette inattention des adultes aux enfants, elle est vraiment structurelle.
Tout à fait, elle est structurelle.
Les adultes font beaucoup moins attention
mais
aux enfants.
Vous voyez dans les théâtres, bon, je vais pas parler de ma propre pratique, c'est pas le sujet là, mais dans ce camp, avec l'équipe, quand on a décidé d'ouvrir un théâtre comme le Théâtre de la Ville aux enfants. Bon, ça va, je vous rappelle qu'entre 1968, où il a été créé à Paris, le Théâtre de la Ville, et le moment où on a lancé le parcours enfant-jeunesse, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y a eu que des adultes. Donc c'est une salle de 1000 places avec que des adultes à Paris. Bon voilà. Et quand on s'est dit on va ouvrir, on a bien senti une réticence des adultes. Je l'ai senti même dans la presse de théâtre pour adultes, etc. C'est pas sérieux le théâtre pour enfants. Ça n'est pas utile même. C'est de l'animation culturelle encore dans l'esprit de beaucoup. Alors que ça n'est pas vrai. C'est comme dans les romans. Et puis si on parle de Alice au pays des merveilles, enfin etc. Donc c'est un sujet extrêmement important. La place de l'enfant est dans la société aujourd'hui. Pour ce 21e siècle, à mon sens, c'est un des sujets clés parce que si on parle de l'égalité, si on parle de tous nos sujets, des filles, des garçons, la question du genre, de toutes ces questions, c'est bien au moment de l'enfance que se construit alors tous nos possibles. Et alors, la place de l'enfant dans l'art, mais dans la société, c'est un sujet clé et essentiel pour nous tous.
Geneviève Brisac.
Ça me rappelle une phrase de Cocteau qui, allant voir un spectacle, entend une personne dire à une autre personne, si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants.
Absolument.
Et, c'est une, parce que, et d'ailleurs, c'est peut-être la chose qui est la plus frappante quand on lit Alice, c'est à quel point c'est intelligent, subtil, pas tout le temps évident, à quel que
très
soit l'âge, assez vraiment, vraiment fort.
Et terrifiant à bien des égards. On disait tout à l'heure que la duchesse fait peur. Je ne suis pas la seule à avoir peur d'ailleurs. Juliette Proutot a tendu son micro cette semaine à des enfants.
Barbatruc,
Dorothée Barba.
Il y a plein de choses qui m'ont fait un peu peur le chat, je croyais qu'il était méchant au début. C'est une histoire qui plaît à des gens, qui plaît pas à d'autres, et voilà. Bah parce qu'il y a plein de choses bizarres, et il y a une histoire. Moi j'aime bien les trucs bizarres.
Mais en fait, j'ai plus eu peur quand je l'ai regardé en vrai que quand j'ai lu. Parce que je sais pas, ça, la dame, quand j'ai regardé le film, elle faisait peur.
La dame, c'est sans doute la duchesse, ou peut-être la reine d'ailleurs, Geneviève Brisac. Le pays des merveilles est-il vraiment merveilleux? Il serait plutôt cruel.
Il est merveilleux dans le sens fantastique, voilà. Dans le sens imprévisible, extraordinaire. Mmh. C'est pas le. Et je pense aussi que c'est un titre un peu trompeur, un peu attirant. Je voudrais aussi faire remarquer qu'il a sa logique. C'est quand même. Mmh. On sait bien que Carole était un logicien,
c'était mathématicien.
Logique, mathématicien. Mmh. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est la logique fait rire. Hein. C'est donc, par exemple, si on prend l'histoire du chat, puisque les enfants évoquaient le chat, et moi j'adore le chat de chez Chat. Et le chat, il est en fait assez gentil. Effectivement, puisque quand Alice lui dit « Vous pourriez ne pas disparaître comme ça, c'est très pénible, les gens qui disparaissent brutalement », il fait « Ok ». Et donc il dit « Maintenant, je vais disparaître progressivement ». C'est très sympa.
Mais je reviens sur ce que vous dites, moi, là, j'aime beaucoup votre approche, là, dans ce que j'entends à l'instant. Finalement, vous parlez de l'humour et de la distance qu'on peut avoir, y compris face à la méchanceté de quelqu'un ou d'un personnage, apparente en tout cas. Parce que ces personnages, qui pourraient être d'une certaine manière effrayant, comme dans beaucoup de contes, la force de la peur, de l'effroi, comme une chose nécessaire aussi dans tous les contes et les légendes qu'on connaît depuis longtemps. Mais en même temps, il y a l'humour, et cette distance par l'humour que l'enfant comprend, et souvent l'adulte, par son approche de bienséance, finit par ne plus savoir lire. Et il y a une distance de lecture nécessaire, parce que finalement, tous ces personnages, et je reviens sur le titre, ce sont des personnages sous terre. Le vrai titre que Lewis Carroll a écrit suite à ce récit imaginaire qu'il a fait quand même à une petite fille et sur les noms qui s'appellent Alice Liddell. Alice Liddell est un être qui a existé, dont Carroll avait une passion pour raconter au moins des histoires. Et ces histoires, c'est l'oralité. C'est l'endroit de l'oralité. Ensuite, c'est devenu un récit écrit. Mais le premier récit s'appelle Alice sous terre. Et c'est l'éditeur à la fin du 19e siècle qui lui dit « Si tu veux un succès mondial, c'est peu probable avec Alice sous terre. » Donc on est passé.
Donc les merveilles viennent de là.
Bien sûr.
C'est un truc d'éditeur en fait.
C'est une chose de l'éditeur.
Donc c'est l'ancienne éditrice qui parle.
Oui, mais c'est l'éditeur qui dit sous terre, sous merveille, et il a raison,
oui, parce que terre, sinon ça veut dire mort.
Voilà, et les gens l'auraient entendu comme ça, et peut-être en même temps on ne peut pas l'oublier. L'enfance et la mort aussi est présent dans le roman.
Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Imbert avec Julien Chabassu à la technique. Reportage Juliette Proutot, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, et nous écoutons Clou à présent. Jusqu'ici tout va bien.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint. Le faux comme une flèche qu'on décoche. Blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tu en joues. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va. Rien ne se voit. Jusqu'ici tout va bien. tout va bien.
Geneviève Brisac et Emmanuel Demarcy-Motta sont mes invités. Nous passons une heure au pays des merveilles plutôt que sous terre. C'est vrai que ça sonne mieux.
France Inter.
Dorothée Barba.
Nous sommes avec Alice dans Barbatruc. Écoutons un extrait du film de Tim Burton.
Sais-tu pourquoi un corbeau ressemble à un bureau?
Laissez-moi y réfléchir.
Quel jour nous serons demain, ça, tu dois le savoir.
Le jour fera mieux, comment pourrais-je l'oublier? J'aimerais tellement me réveiller.
Tu persistes à croire que ce n'est qu'un rêve?
Évidemment. Tout ça ne provient que de mon esprit.
Ce qui voudrait dire que je ne suis pas réel.
Malheureusement, oui. Vous n'êtes que le fruit de mon imagination. Rêver de quelqu'un qui est à moitié fou, ça me ressemble.
Oui, oui, mais pour rêver de quelqu'un comme moi, tu dois être un peu folle aussi.
C'est fort possible. Vous me manquerez à mon réveil.
Des fois, il y a un truc que j'ai vu dans un ancien rêve qui a pas longtemps, qui revient dans un rêve de maintenant, quoi.
Bah, en fait, c'est comme c'est pas vrai. Enfin, il y avait plein d'imaginations bizarres. Par exemple, les animaux ils parlaient. Il y avait des animaux qui n'étaient pas communs. Donc, c'était vraiment des imaginations. Et oui, des fois, enfin. Ça m'arrive pas souvent parce que j'oublie mes rêves. Mais oui, des fois, ça me fait penser à mes rêves. Voilà.
Les enfants que l'on a interrogés parlent spontanément de rêves lorsqu'il est question d'Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Cette histoire est aussi bizarre qu'un rêve. Et notamment parce que la langue est étonnante, Geneviève Brisac. Quel usage Alice fait-elle du langage?
Elle en fait comme, je vais pas faire ma pédante, mais comme disait Kafka, c'est vrai qu'elle s'en sert comme un instrument de forage de la réalité, pour faire sortir de ce qu'elle voit la vérité. Donc elle interroge une réalité assez bizarre, et puis elle discute de l'image qui lui est renvoyée. Par exemple, j'adore l'échange avec le pigeon. Le pigeon dit « Ah, arrête, va-t'en, tu es un serpent ». Elle dit « Mais enfin, je ne suis pas un serpent, je suis une petite fille ». Il dit « C'est avec le cou que tu as ». Tu es certainement pas une petite fille, tu es un serpent, j'aime particulièrement ce moment. Et là, elle dit, et donc tu es un serpent, tu vas manger mes œufs. Et là, elle dit effectivement, j'aime beaucoup les œufs. Et à ce moment-là, le pigeon dit dans un éclair de génie contemporain, il dit, de mon point de vue, c'est exactement pareil que tu sois une fille et un serpent puisque tu manges des œufs.
C'est un sophisme.
Oui.
Emmanuel Demarcy-Motta.
C'est un sophisme réducteur, enfin, qui réduit l'autre à néant. De mon point de vue, c'est exactement pareil.
Emmanuel Demarcy-Motta, oui. C'est aussi une réflexion sur le langage, cette histoire?
Oui, absolument. C'est une question sur l'identité, finalement, y compris du langage, c'est-à-dire enfin entre le signifiant et le signifié, entre la représentation même qu'on a du mot, la question des sonorités aussi dans le langage, l'importance du son. On sait que...
C'est compliqué à traduire à cet égard.
Bah oui, la chasse au snark, quand on prend un autre personnage, enfin le snark imaginaire et le mélange entre shark, snake et shale, c'est-à-dire l'escargot, le requin et le serpent, justement, qui amène alors la condensation et ce qu'on a appelé les mots valises. Et l'idée même, regardez, si un enfant, si nous-mêmes on se dit, on a une valise, on met des mots dedans, on secoue la valise, d'autres mots vont se former à partir de là. Donc je dirais, c'est la fantaisie. Vous savez, le mot fantaisie, en français, veut dire la liberté absolue de création. Sauf que, regardez, en tant qu'adulte, c'est un mot négatif. On dit, oh, il a trop de fantaisie. Oh, il a de la fantaisie. C'est-à-dire, il est fantasque. C'est-à-dire, on voit tout de suite le caractère négatif. Alors que chez Alice et chez Carole, le mathématicien, le logicien, celui qui interroge l'espace et le temps, justement, de l'être même, eh bien, la fantaisie, c'est la liberté de création sans entrave. Et je dirais même, Alice est un personnage qui jouit sans entrave, si vous voulez, sans genoux.
Alice est trop grande pour passer la porte qui mène à un joli jardin. Alors, elle rapetisse, elle se replie comme un télescope et elle peut passer par la porte. Et ensuite, elle grandit à nouveau. Est-ce d'abord de cela qu'il s'agit, Geneviève Brisac, grandir?
Il est certain que grandir est une chose assez déroutante. On en a tous fait l'expérience.
Je crois.
Et en général, d'ailleurs, on remarque que les enfants, quand ils ont grandi de 10 cm par an, sont très fiers et en même temps désarçonnés. Tu sais que j'ai grandi de 10 cm cette année. Ce qui est très beau avec le début d'Alice, les trois premiers chapitres, c'est que elle commence par subir. Donc, elle mange, elle boit, buvez-moi, mangez-moi. Elle grandit, elle rapetisse, elle grandit, elle rapetisse. Et puis, elle apprend à se servir de cet instrument, grandir, rapetisser, pour avoir la bonne taille. En si je mange juste une petite miette de gâteau, je vais juste grandir suffisamment ou pour ne pas me noyer dans la mare de larmes, ou je vais juste rapetisser suffisamment pour passer. Donc, elle prend le contrôle. Elle devient maîtresse de sa vie. Et ça, je trouve ça mais splendide.
À vrai dire, j'ai tellement changé depuis ce matin, dit-elle, que je ne saurais plus dire qui je suis. Grandir, c'est aussi apprendre à se connaître, Emmanuel de Marcy-Motin.
Mais c'est le doute et la perte. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce tunnel dans lequel elle tombe, je dis le tunnel parce que ce tube, c'est une question essentielle, celle du corps dont on parlait, de l'adolescence, de l'identité même, et de sa capacité à décider de son destin, mais dans l'endroit du rêve. Et c'est ce qui nous fascine, c'est-à-dire, c'est dans le rêve, peut-être, que se fabrique une réalité qui va nous habiter dans le présent. Donc cet aller-retour profond où le rêve est l'endroit aussi d'une construction, c'est-à-dire l'endroit du sommeil, l'endroit qui nous répare. L'enfant grandit plus quand il dort que quand il ne dort pas. Nos ongles ne poussent pas pendant la journée, mais seulement quand on dort, ainsi que les cheveux.
Parce qu'il n'y a pas non plus un truc vraiment génial, hein, les ongles qui poussent.
Mais le fait de grandir, c'est dans le sommeil. C'est le meilleur des arguments pour dire à un enfant qu'il faut dormir.
Donc,
que tes ongles poussent.
Et c'est un endroit qui nous permet aussi les moments effrayants, le cauchemar, le rêve, la nuit, la solitude, et le besoin d'une histoire aussi souvent pour faire ce passage. Donc, on a quand même, nous, comme êtres vivants sur Terre, ce rapport au diurne et au nocturne, qui est une question très profonde. Et le théâtre, la littérature, c'est bien l'endroit aussi de ce monde mystérieux qu'il faut assumer, c'est-à-dire l'endroit du doute, de la connaissance par rapport à votre question et d'une recherche. Alice cherche. Alice, elle avance. Et en même temps, c'est ce petit bout de petite fille exemplaire, finalement, aujourd'hui pour nous tous, parce qu'elle a beaucoup de réponses à des questions que nous n'avons pas encore formulées.
Écoutons un nouvel extrait lu par Louise Bauduret.
Le chat grimaça en apercevant Alice. Elle trouva qu'il avait l'air bon enfant, et cependant, il avait de très longues griffes et une grande rangée de dents. Aussi comprit-elle qu'il fallait le traiter avec respect. Grimaçon, commença-t-elle un peu timidement, ne sachant pas du tout si cette familiarité lui serait agréable. Toutefois, il ne fit qu'allonger sa grimace. Allons. « Il est content jusqu'à présent, » pensa Alice, et elle continua. « Dites-moi, je vous prie, de quel côté faut-il me diriger ?»« Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller, » dit le chat. « Cela m'est assez indifférent, » dit Alice. « Alors, peu importe de quel côté vous irez, » dit le chat. « Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en explication. Cela ne peut manquer, pourvu que vous marchiez assez longtemps. Alice comprit que cela était incontestable. Elle essaya donc d'une autre question. Quels sont les gens qui demeurent par ici ? De ce côté-ci, dit le chat, décrivant un cercle avec sa patte droite, demeure un chapelier. De ce côté-là, faisant de même avec sa patte gauche, « demeure un lièvre. Allez voir celui que vous voudrez. Tous deux sont fous. »« Mais je ne veux pas fréquenter des fous, » fit observer Alice. « Vous ne pouvez pas vous en défendre. Tout le monde est fou ici. Je suis fou. Vous êtes folle. »« Comment savez-vous que je suis folle ?» dit Alice. « Vous devez l'être, » dit le chat. « Sans cela, vous ne seriez pas venue ici. » Alice pensa que cela ne prouvait rien.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Moi, je l'avais lu peut-être quand j'étais en CM1, CM2. Donc, j'ai pas vraiment de souvenir de si c'était compliqué ou pas. Mais en refeuilletant le livre, j'avais fait il y a pas très longtemps. En soi, c'est pas un livre vraiment pour enfants. Et puis même, il y a des histoires de mort aussi dedans. Donc, c'est pas forcément la bonne histoire. C'est un peu comme... Le loup et les cochons, quoi. C'est des livres pour enfants, mais avec quand même une histoire assez glauque, quoi.
Ça n'est pas pour les enfants, nous dit cette adolescente au micro de Juliette Proutot. Virginia Woolf est du même avis, qui dit que les deux Alice ne sont pas des livres pour enfants, mais plutôt les seuls livres pour lesquels nous devenons des enfants. Geneviève
Brisac. Oui, je suis pas sûre que ça veut exactement dire ça. comme non. dirait un personnage de l'Isle des Merveilles.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la notion même de livre pour enfants telle qu'elle est de toute façon extrêmement restrictive. Mmh. Et j'ai trouvé dans les paroles d'une personne qui était interviewée cette chose qu'on reconnaît très bien dans la préadolescence ou l'adolescence, qui est de dire non mais les enfants, excuse-moi, mais qui retrouvent dans leur boîte, et de toute façon ils sont idiots, etc., etc. Donc moi j'ai pas ce point de vue-là. D'ailleurs je trouve ça très normal et que les adolescents aient ce point de vue, ce n'est pas du tout le mien. Je pense que les enfants comprennent très bien énormément de choses et même s'amusent énormément à écouter Alice au Pays des Merveilles quand on leur raconte.
Qui est fou dans cette histoire?
Alors,
tout le monde.
Ou personne.
Ça interroge les frontières de la folie.
Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que la folie fait peur, en vrai. Hein, il y a donc d'ailleurs un très beau livre de Gilles Deleuze là-dessus. La folie fait peur, mais pas la folie des personnages d'Alice qui ne fait pas si peur que ça. C'est-à-dire qu'on prétend, comme souvent dans les livres, qu'on a vachement peur, mais en fait, on n'a pas si peur. C'est un peu comme l'histoire du loup, comme le disait l'interviewé. Mmh. Parce que sinon, c'est pas du plaisir. C'est la peur de, oh, ça fait peur, mais en fait, il va rien arriver.
Emmanuel de Marcimota.
Oui, on est à la frontière du jeu, c'est-à-dire du jeu avec la peur. On peut jouer à avoir peur, tout en étant pleinement identifié à la peur, dans l'instant même de cette peur, mais en sachant qu'elle ne va pas durer. Donc elle ne génère alors pas une angoisse qui pourrait s'enclencher, et donc quelque chose qui serait très négatif, effectivement. Mais c'est toutes ces frontières qui sont l'endroit de la réalité, non pas d'un réel, mais d'une réalité. Lorsque vous parlez de la folie, lorsqu'on a évoqué la question du langage, la question de l'espace aussi est extrêmement importante dans les récits. Pour moi, je vais vous dire, et je suis heureux d'être invité dans votre émission, vraiment parce que Alice, pour le dire très sérieusement, pour moi, c'est une des histoires les plus importantes, pas les plus compliquées, les plus complexes, c'est-à-dire les plus riches, qui nous permet philosophiquement, mathématiquement, spatialement, d'interroger notre propre connaissance. Et je pense que Lewis Carroll est plus qu'en avance, si vous voulez, si des plus grands réalisateurs de cinéma aujourd'hui, qui ont fait des films mondialement importants, si même des personnages qui ont été créés après Alice, comme E.T., par le cinéma, interroge la question des frontières et des espaces entre l'imaginaire, la réalité, les grandes nouvelles aussi de la fin du romantisme allemand, on est à un endroit clé. Et je vais vous dire, quand on prend quelqu'un comme Vladimir Propre, bon, qui interroge les contes, les légendes, l'imaginaire, et justement, toutes ces questions, c'était il y a un siècle. Eh bien, aujourd'hui, où en sommes-nous dans notre rapport à ces grands contes profonds, ancestraux, le caractère anthropologique, même au fond de nous-mêmes, qui permet de relier l'enfant, le plus grand mathématicien, le plus grand savant, jusqu'à la question de l'espace invisible, des trous noirs, des galaxies, ce que vous avez dans la deuxième partie avec Alice traverse le miroir. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number, much, much worse than two. One is
a number divided by two.
C'était Harry Nilsson sur France Inter. One, nous sommes avec Alice au pays des merveilles cette semaine.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
C'est pas qu'elle elle va vraiment dans un vrai pays, mais à un moment, elle s'endort. Et c'est là qu'elle...
C'est un monde imaginaire.
Emmanuel Demarcy-Motta, metteur en scène de théâtre, directeur du théâtre de la ville à Paris, et Geneviève Brisac, écrivaine, sont mes deux invités. Est-ce que vous connaissez le mystère des fausses citations ? Ce sont des citations qui circulent sur Internet mais qui n'ont jamais été dites ni écrites par l'auteur prétendu. Lewis Carroll fait partie des victimes de cet étrange phénomène. On lit partout sur Internet cette citation. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? Elle est jolie cette question, sauf qu'elle ne figure pas du tout dans Alice au pays des merveilles, ni dans la traversée du miroir. Impossible de savoir qui a inventé cette citation, mais elle est reprise absolument partout. Et à vrai dire, c'est pas une question qu'on imagine Alice poser, n'est-ce pas, Geneviève Brisac ?
Non, je trouve qu'effectivement, elle est très intéressée par le monde qu'elle explore, qu'elle découvre et auquel elle est confrontée. Mais elle ne propose pas une utopie.
Elle ne cherche pas à donner un sens au monde.
Bah, elle a 8
ou
ans.
Ou en inventer un.
En revanche, du point de vue de la civilisation, puisqu'on parle de ça, hein, du monde qui a pas de sens ou qui a un sens, Alice au pays des merveilles, c'est un livre qui vous emmène sur les chemins de la vérité, et donc c'est pas du tout gnangnan, et c'est question de violence verbale, et par exemple quand elle arrive chez les fleurs, on pourrait se dire les fleurs, oh là là, ça va être niais quoi, et en fait les fleurs sont pas du tout niaises, mais elles sont super agressives. Le lys tigré, c'est une espèce de salopard. Alors, il dit, est-ce que tu peux avoir l'air bête? Ça c'est un truc très... Mais normalement, dire comme t'as l'air bête et comme t'es moche, et comme tu es informe, et c'est bien normal vu que tu t'appelles Alice, c'est vraiment un nom à être informe, c'est de la violence verbale pure.
Alice, on le disait, ne cherche pas le sens de la vie. Ceci dit, la philosophie n'est jamais loin. On se demande beaucoup qui on est. Nouvel extrait du film de Tim Burton.
Qui es-tu?
Absolème.
Tu n'es pas Absolème, je suis Absolème. La question est... Qui es-tu?
Alice.
C'est à voir.
Qu'entendez-vous par là? Je sais qui je suis tout de même.
Oui, tu devrais le savoir, petite sotte. Déroulez l'oraculum.
L'oraculum, c'est un almanach épitomé de notre pays.
C'est un calendrier.
Un épitomé. Chaque jour y est détaillé, répertorié, depuis le commencement.
Aujourd'hui, c'est le jour festigrib du règne de la Reine Rouge.
Montrez-lui, le jour frabieux.
Oui, le jour frabieux, c'est le jour où tu assassines le Jabberwocky.
Pardon ? J'assassine le quoi ?
C'est bien toi, là, avec l'épée Vorpaline. Aucune autre épée ne peut tuer le Jabberwocky, en aucune façon. Sans la Vorpaline, il meurt pas.
Ce n'est pas moi. Je le savais.
Oh, aidez-nous, Absolème. Est-elle la véritable Alice ?
Elle est loin d'être Alice.
On fait pas trop attention à ce genre de choses, mais quand on grandit, on se rend compte que... Enfin, c'est pas forcément quelque chose à vraiment montrer comme exemple aussi à ses enfants, quoi. Enfin, parce qu'une chenille qui fume et qui prend des champignons, je veux dire, ça en rapport avec la drogue, je veux dire, c'est pas trop un message préventionnel, on va dire.
Il y a plein de films pour enfants et d'histoires comme ça pour enfants. Quand tu regardes ça enfant, tu regardes ça tellement de manière innocente que genre... Quand tu le regardes après, tu peux voir, parce que t'as grandi, du coup tu comprends un peu mieux les choses qui peuvent être sous-entendues. Mais quand tu la regardes enfant, genre, ça peut te sembler juste normal, genre.
Ouais,
c'est juste fait partie du personnage, la chenille, elle fume, bah ouais, c'est stylé, c'est la chenille fumante, voilà.
Emmanuel de Marcy-Motta, gros sujet, la chenille qui fume. Est-ce une histoire sulfureuse, Alice au Pays des Merveilles?
Bah, elle prend aussi des champignons, ouais. Hein. Il y a aussi un truc un peu hallucinogène, il y a à rappeler aussi, finalement, que Carole a fait des propres expériences personnelles, limites, mais à travers des migraines, je vous rassure, pour rester dans la bienséance, pas que à travers la prise de drogue. Mais il avait des migraines ophtalmiques extrêmement violentes qui donnent des sensations justement de distorsion du corps, avec cette idée que le pied s'éloigne même de votre jambe. Donc il est passé par des expérimentations aussi qui lui ont permis, en tant qu'écrivain ou dans son imagination à lui, il a replacé à l'intérieur toutes ces expériences. Il était très sensible à ces questions de la distorsion aussi des corps. Donc oui, il y a en tout cas, il faut considérer que c'est possible dans les interprétations qu'on peut faire comme metteur en scène, comme romancier, comme adaptateur, maintenant aujourd'hui, de considérer que il y a aussi un endroit de l'hallucination. Il y a plein de manières d'y arriver, par la rêverie, par le songe, par la drogue. Je veux dire, chacun est là responsable. Il y a pas de voilà.
C'est surtout une histoire qui célèbre le pouvoir de l'imagination, Geneviève Brisac.
J'ai l'impression quand même que c'est la question des mots et du plaisir des mots et des mots dans la bouche, puisque c'est quand même question d'oralité. Par exemple, on n'a pas eu le temps de parler de l'autre côté du miroir, parce que dans le miroir, tout est à l'envers, en particulier les textes sont à l'envers. Moi, je me souviens très très bien, enfant, d'avoir pris mon livre et de l'avoir mis dans la glace et d'avoir jubilé. Ah, mais oui, et puis après, quand on fait le contraire, du coup, on peut un texte qui est écrit à l'envers, en le mettant devant une glace, on le voit à l'endroit, et là, on a l'impression d'avoir vraiment avancé.
C'est le langage qui peut parfois nous échapper, mais qui aussi permet tout.
Ouais, je crois, je crois. Et puis, qui est un révélateur et qui est un plaisir, les deux en même temps.
Je pense que le langage, pour ajouter, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, c'est que la conscience du langage comme élément structurant, y compris du corps. C'est-à-dire que le langage, de considérer que les sons donc dans la bouche, les sons qui arrivent à l'oreille de l'autre et dans l'espace, finalement, voyagent. Et que le son voyage réellement. Il y a la vitesse de la lumière, il y a la vitesse du son. Et Carole est un des précurseurs. Il y a donc un théorème de Carole, y compris sur la question du cube. Bon, là, on rentrerait dans des questions de physique pure, y compris dans la physique quantique, ça a été repris autrement. Alors, c'est des interrogations sur le monde, mais le langage est le centre. Je pense que c'est très important, c'est-à-dire qu'on est constitué par, y compris les contradictions du langage, mais par les sonorités qui nous amènent aux mots-valises, à l'imagination et à la réinterrogation de son propre être, la voix même. Alors quand le langage disparaît, parce qu'on ne peut pas s'exprimer oralement, il y a d'autres langages à travers d'autres communications qui se mettent en place, qu'on voit profondément aussi dans Alice.
Ceci est sans doute ma phrase préférée de ce roman. Elle essaye d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie après qu'on l'a soufflée.
Oui, le paradoxe. Le paradoxe du temps présent, c'est-à-dire chez Carole, Ionesco a exactement repris cela dans un roman qui s'appelle « Passé, présent, passé ». C'est-à-dire comment dans votre présent, votre passé est présent, et que votre présent sans passé n'est pas présent, mais que l'instant présent est déjà passé.
C'est Inception, là.
Oui, c'est Carole. Il a compris, il a saisi ce que nous cherchons.
Geneviève Brisac, quand le chat disparaît, il reste son sourire.
Un sourire sans chat.
Le sourire sans chat,
moi j'en ai cherché toute ma vie.
Vous l'avez trouvé ?
Pas facile. Mais je sais pas si je vais peut-être le garder pour moi.
Oui. Parfois, on ne comprend pas grand-chose à cette histoire et ça n'est pas grave. C'est compliqué, mais il y en a une qui voit très clair dans cette histoire, c'est Léane. Elle a 17 ans.
Je pense qu'en fait, pour les enfants, là, cette histoire de merveille, c'est de faire ce qu'elle veut. En fait, parce qu'au début du livre et du dessin animé, on comprend qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle doit lire des livres, elle doit aller à l'école et tout. Et là, elle est dans son rêve, donc elle fait ce qu'elle veut en soi. Et comme c'est son rêve, c'est elle qui a inventé ses propres merveilles. Donc, en soi, quand on regarde maintenant le film ou quand on lit le livre, c'est vrai que ça peut paraître un peu malsain, mais on se dit que c'est quand même le rêve d'un enfant, écrit par un adulte.
Les merveilles, c'est faire ce qu'on veut et c'est apprivoiser l'ennui. Merci Léane, nous tenons là l'un des fins mots de cette histoire, non Geneviève Brisac ?
Bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est vrai aussi que c'est une leçon pour les petites filles. Il n'y avait pas tellement de livres qui avaient pour héroïne une petite fille. Donc elle est aussi raisonneuse, arrogante et tout ce qu'on a dit, parce que c'est Batman aussi un peu arrogant.
Sans blague.
Donc, c'est elle pas réservé aux garçons, c'est ça qui est
voilà,
bien.
Voilà, exactement. Elle est autoritaire aussi. Et puis elle est aussi maladroite, ça on l'a pas dit. Elle fait aussi beaucoup de gaffes. Ce qui est évidemment une source de rigolade pour le lecteur ou la lectrice, parce qu'on se la voit en train de se préparer à dire à une souris qu'elle a un chat merveilleux, et la souris se crispe bizarrement. Donc il y a aussi...
Elle met les pieds dans le plat, fréquemment.
Oui, oui, et avec une attitude d'incompréhension de l'autre aussi, et elle apprend.
Alice au Pays des Merveilles et La Traversée du Miroir sont disponibles en livre de poche, bien sûr. J'aimerais aussi conseiller cette magnifique édition illustrée par Benjamin Lacombe, que vous connaissez, Emmanuel de Marcier-Motin.
Elle m'a beaucoup inspiré d'ailleurs, ce travail visuel et de recherche sur ce mot finalement qu'on vient d'entendre, dont vous venez parler, qui est aussi la capacité d'émerveillement. C'est-à-dire que cette fille libre, finalement, elle est exemplaire pour nous tous, je pense aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, finalement. Elle est capable de renvoyer dans les cordes, pour le dire comme ça, d'autres.
Une chenille.
Une chenille, qui elle veut, y compris des personnage très autoritaire face à elle, c'est une liberté et on voit toutes les inspirations et ce livre que vous avez là entre les mains est merveilleux, je le conseille à enfants et adultes.
La façon dont Benjamin Lacombe dessine le dodo notamment est absolument délicieuse. Édition Soleil Métamorphose. Quoi d'autre au rayon jeunesse des librairies? Denis Chessou nous livre ses conseils de lecture ici chaque semaine. L'as-tu lu mon petit loup? Au programme aujourd'hui un écureuil et de l'amour. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz en France Inter. L'as-tu lu, mon petit loup ?
Bonjour Dorothée, et oui, et tout cela nous fait une pétillante actualité du livre pour enfants. Commençons par un album malin qui parle aux enfants des limites à ne pas dépasser. Un peu beaucoup est signé Olivier Talec aux éditions Pastel à partir de 4 ans. On fait la connaissance d'un écureuil, et un écureuil sans art, évidemment, ça le fait pas. Car aussi solide qu'il puisse paraître en apparence, il faut bien prendre soin de son arbre.
Il faut lui parler tout doucement, dans le creux de son tronc, il faut s'en occuper comme d'un ami.
Alors jusque-là, en apparence, tout va bien. Hein. L'écureuil et l'arbre s'occupent bien l'un de l'autre.
J'adore les pommes de pin, et puis il y en a tellement.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas toutes les manger d'un coup. Et oui, il faut seulement en prendre quelques-unes. Juste celle dont on a besoin.
Oui, mais bon, j'ai le droit d'en prendre encore une, deux ou trois. De toute façon, il y en a plein mon arbre. Et puis, quelqu'un va bien finir par les manger, alors autant que ce soit moi.
Et là, on y est. Cueillette sans fin, une bonne dose d'inconscience égoïste. Bah, en fait, cet écureuil est très humain, dans le fond.
Mais il ne reste qu'une seule pomme de pin. C'est un peu embêtant. Autant la manger tout de suite, comme ça c'est fait, et on n'en parle plus.
Et puis, l'arbre, certes, n'a plus de pomme de pin, mais il a plein d'aiguilles sur ses branches. Et là, une voix semble lui dire...
Attention, il ne faut pas manger toutes les aiguilles, car c'est fragile un arbre. Juste ce dont on a besoin.
Gros plan sur l'écureuil, l'œil interrogatif, mais semblant d'accord sur le principe. Car page suivante, eh ben, l'arbre est déplumé.
Bon, c'est vrai que j'en ai peut-être mangé un peu beaucoup.
Et puis, il prend les petites branches pour faire un feu.
Celles qui ne servent à rien, hein. De temps en temps pour faire un petit feu, car c'est fragile un arbre, hein. Il faut en prendre soin.
Mais quand on a des amis, il faut une grosse branche pour faire un gros feu. Et notre écureuil scie les grosses branches.
Il en a énormément de grosses branches, mon arbre, alors une de temps en temps.
Et le dépeçage de l'arbre aimé par petites touches continue jusqu'à ressembler à un poteau téléphonique. Notre écureuil, qui détruit son habitat, est obligé de se construire alors une cabane sur la souche de son arbre. Donc un récit humoristique et philosophique, raccord avec notre société d'hyperconsommation inconséquente, à faire lire à tous les turiféraires du court-termisme, un peu beaucoup d'Olivier Talec. À partir de 4 ans, c'est aux éditions Pastel. « Je t'aimerai toujours » est signé Robert Munch et Camille Jourdi aux éditions des Éléphants. Et alors là, c'est à partir de 4-5 ans, mais sans aucune limite d'âge. Une mère berçait son nouveau-né tout doucement et lui chantait à l'oreille.
« Aussi longtemps que je vivrai, toujours je t'aimerai. Jusqu'à la fin des temps, tu seras mon enfant. »
Et le temps filait. Elle le regardait alors grandir et devenir un enfant subitement plus autonome.
Il grandit et à 2 ans, il courait partout dans la maison. Il jetait des livres hors des étagères et sortait toute la nourriture du réfrigérateur.
Et malgré l'énergie dépensée et l'abattement de fin de journée, elle se glissait à la nuit tombée dans la chambre de son enfant pour lui chanter son amour. Bon, à un moment, il devient adolescent. Hein.
Il avait d'étranges amis, il portait d'étranges habits et il écoutait une étrange musique.
La distance peu à peu se creusa.
Il grandit jusqu'à devenir un homme. Il quitta la maison et trouva un logement de l'autre côté de la ville.
Une distance que la mère ne cessa de combler.
Mais parfois, quand la nuit était noire, la mère prenait sa voiture et traversait la ville.
Et un jour, elle appela son fils et lui dit
« Tu ferais mieux de venir me voir car je suis vieille et malade. »
Et son fils vint la voir. Et elle voulut lui chanter encore, hein, une fois toute la profondeur de son affection.
Mais elle ne put finir car elle était trop vieille et trop malade.
Et ce fut alors le fils, devenu lui-même père, qui la prit dans ses bras. Il lui chanta à son tour cette même chanson, celle qui murmure l'amour indéfectible qu'un enfant porte à sa mère, celle qu'il a entendue tout au long de sa vie sans réellement le comprendre.
Alors Denis, pourquoi cet album vous a touché ainsi que Lucie Cosmala ?
Eh bien parce qu'il fait en fait l'écho du sentiment universel qui est l'amour filial, tellement intemporel que le livre n'est d'ailleurs pas si récent. Il a été écrit donc par Robert Munch en 1986. Il se voit réédité cette année avec de nouvelles illustrations de Camille Jourdi et ça gagne véritablement en force évocatrice. Et cet album parvient autant à être mélancolique qu'à faire l'effet d'une étreinte. « Je t'aimerai toujours » aux éditions des éléphants, je vous le disais, c'est vraiment pour tous les âges. Merci à Xavier Pestuggia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. On vous souhaite de belles lectures, Dorothée.
Merci beaucoup, Denis Chessou. Vous retrouvez la Tulu, mon petit loup, sur notre site internet et sur l'application mobile de France Inter. Je suis avec Geneviève Brisac et Emmanuel de Marcy-Motta qui nous ont dit toute leur passion pour Alice au Pays des Merveilles. J'ai une dernière question à présent, question rituelle dans cette émission. Quelle est l'odeur de votre enfance, Geneviève Brisac?
C'est l'odeur de la mer, vraiment. C'est l'odeur de la plage. Quand on arrive sur une plage, on se rappelle qu'il y a une odeur. Le sable ne devrait pas sentir, sentir quelque chose. En fait, le sable sent le sable. Les immortels sentent les immortels.
Et c'est une odeur qui convoque immédiatement des souvenirs.
C'est une odeur qui convoque immédiatement des sentiments de liberté parce qu'on peut nager vers le large.
Emmanuel de Marcy-Motta.
Ben c'est étrange, Geneviève Brisac, parce que j'allais parler du sentiment océanique. Et pour l'odeur, eh bien, je ne prendrai pas alors, puisque vous l'avez prise.
Elle a pris la mer.
Partagée, il n'y a aucun problème.
Non, vous l'avez pris, vous avez pris la mer. Alors, dans notre jeu, j'en prends une autre. Je prends la Dame de la Nuit, qui est une plante au Portugal et dans d'autres pays du Sud qui existe et qui ne dégage son odeur que la nuit. Et qui a une odeur très puissante, très enivrante, qui existe en bord de mer. Donc c'est quelque chose d'assez mystérieux et très rare.
La Dame de la Nuit est sans doute plus sympa que le lys tigré.
Les tigrés.
Terrible. Merci à tous les deux. À bientôt sur Inter.
Merci beaucoup.
Merci Dorothée.